Église du Lot. Balade découverte des églises et chapelles de notre département. Avec Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs. Alors dans cette émission Église du Lot et Balade découverte des églises du Lot, nous continuons avec le Sacré-Cœur et l'église du Sacré-Cœur de la paroisse de Cahors. Donc nous étions la semaine dernière dans le cœur, Marie-Madeleine. Bonjour, j'en profite pour vous saluer.
Bonjour Martine, voilà. Bonjour à tous.
Et donc nous étions dans le cœur, je disais Marie-Madeleine, la semaine dernière. Nous continuons un tout petit peu dans le cœur, car il y a autour de ce tableau principal dont nous avons parlé, quatre peintures qui paraissent assez foncées. Et qui dit quatre évangélistes, je suppose.
Voilà, vous avez tout dit. Donc, il y a donc les quatre évangélistes. Donc, ce sont des peintures sur mur, hein, des peintures murales. Donc, si on les prend dans l'ordre des évangiles.
Donc en commençant par la gauche peut-être.
On va commencer par la droite.
Ah ben voilà. Marie-Madeleine, aujourd'hui, ce n'est pas pareil.
En bas à droite, nous avons Saint Matthieu. Saint Matthieu qui donc a le petit ange à ses pieds, puisque c'est son attribut, et qui tient un livre dans ses bras, c'est-à-dire son évangile. Au-dessus, nous trouvons Saint Marc. Nous trouvons Saint Marc qui lui-même a son lion à ses pieds et toujours un livre dans les bras. Voilà, qui marque son évangile bien sûr. Et le lion est vraiment derrière les pieds, il entoure les pieds de Saint Marc.
Alors nous passons sur
nous
la
passons
gauche,
de l'autre côté, voilà. Où nous avons Saint Luc en haut. Voilà. Avec son taureau, lui aussi, derrière ses jambes. Et toujours pareil, il est en train de lire son évangile et il tient une plume à la main. Et en dessous de Saint-Luc, nous avons Saint-Jean, lui aussi, donc habillé de jaune et de vert, qui tient une plume. Il regarde...
Laissez-moi deviner ce qu'il a à ses pieds. Un aigle, Marie-Madeleine.
Un aigle blanc, ce qui est assez rare. Un aigle blanc, voilà. Mais ce qui est un peu caractéristique ici de Saint-Jean, il regarde le ciel. Hein. Il est vraiment inspiré par l'esprit. Hein. Les autres regardent leurs évangiles. Voilà, dans ces représentations des quatre évangélistes. Alors ensuite, nous avons...
Alors en sortant du cœur...
On est toujours dans le cœur.
On est toujours dans le cœur.
Avec deux statues. Il reste deux statues dans ce cœur à regarder. Nous avons donc à gauche Saint-Pierre et à droite Saint-Paul, les piliers de l'Église, hein, qui se retrouvent souvent ensemble. Alors Saint-Pierre, évidemment, a ses attributs dans la main, c'est-à-dire les deux clés du paradis et de l'enfer. Quoiqu'ici, je vois qu'il n'y a que la clé du paradis, elle est dorée. Hein, voilà, et il a donc un livre aussi, il tient un livre dans la main gauche, c'est sans doute ses lettres.
D'accord.
Alors ensuite, nous avons de l'autre côté Saint Paul, qui lève le bras droit en l'air, lui aussi inspiré par l'esprit, hein, et enseigné par les apôtres, puisque Saint Paul n'a jamais connu Jésus, hein, il l'a entendu lors de sa conversion sur le chemin de Damas, mais il ne l'a jamais vu puisque Jésus était mort avant. Et donc il tient dans sa main gauche le symbole de son martyr, c'est-à-dire l'épée, puisqu'il a été décapité sur la Via Appia à Rome.
D'accord. Donc en sortant voilà pour de ce cœur, voilà, en sortant de ce cœur, lorsque nous partons du cœur sur la gauche, nous avons
une très belle jolie,
statue voilà, dorée,
une statue dorée de la Vierge à l'enfant. Mmh. Hein, et chaque fois qu'à la messe on prie la Vierge, l'assemblée se tourne vers cette statue qui est très belle. La Vierge est couronnée. Et vêtue d'une magnifique robe dorée, ainsi que Jésus qui a un drap doré autour de lui, voilà, qui est dénudé mais qui a un petit linge autour de lui doré.
Mmh. Voilà. Et cette statue, est-ce qu'il y a une date particulière ?
Oh, c'est 19e, elle est 19e, mais elle est jolie, elle est très jolie. Mmh. Voilà, alors, elle est très brillante.
Et nous apercevons donc à côté de cette statue.
Alors, dans la chapelle qui jouxte cette statue, la première statue à droite, c'est traditionnellement Saint Jean-Gabriel Perboire, que nous avons quasiment dans toutes les églises du Lot. Alors ici, il est sur sa croix, en train d'agoniser. Il est vêtu donc du vêtement rouge des mandarins de son époque. Il est mort en 1841. Et donc il a la tresse également des mandarins de l'époque, puisqu'il voulait s'assimiler à la population d'où il était, de locale, pour mieux approcher les Chinois qu'il voulait évangéliser. Hein, voilà. Et donc, il est lié sur la croix, puisqu'on lui a fait le supplice du garrot, c'est-à-dire de l'étranglement petit à petit, au soleil. Et évidemment, il a fini par en mourir, ce qui est normal. Et donc, il est représenté, c'est une représentation très, très courante dans le Lot. Hein. On le voit aussi habillé en mandarin, hein, sur d'autres statues, mais là il est c'est son supplice que l'on montre sur la croix. Et donc on a les Chinois ont voulu le faire mourir comme son maître, comme Jésus qu'il proclamait.
Alors je vous disais, Marie-Madeleine, juste avant que vous terminiez, nous apercevons des briques, enfin la construction de l'église.
Oui. Première. Alors nous sommes dans les chapelles primitives de l'église, c'est-à-dire du XIIIe siècle. 1260, mettons, hein, à peu près. Alors, ce côté-là, ce côté nord de l'église, jouxtait le couvent.
D'accord.
Et donc, ces arcades que nous voyons à l'heure actuelle, probablement donnaient accès à ce couvent. Hein. Mais pour l'instant, maintenant, elles sont bouchées, évidemment, hein, puisque le couvent de l'époque est devenu l'école primaire Saint-Étienne.
Alors
nous continuons dans cette chapelle, toujours.
Il y a donc un tableau magnifique.
Voilà, il y a un tableau probablement 18e, début 18e, sur l'adoration des mages. Adoration des mages, donc là aussi très traditionnel, avec les trois mages à droite, la Vierge à gauche et Saint-Joseph derrière la Vierge. Alors la Vierge tient le petit Jésus sur ses genoux, il est debout, il est à peine vêtu, hein. Et la Vierge est vêtue d'une robe rouge et d'un manteau bleu, hein, voilà, qui lui recouvre les genoux. Et les mages, donc, sont à droite. Nous voyons le plus âgé qui s'incline, qui est à genoux, qui s'incline devant l'enfant Jésus en lui offrant l'or, probablement, symbole de la royauté du Christ. Et c'est le plus âgé, parce qu'il faut dire que les trois rois mages, ce chiffre de trois est un peu symbolique, hein. Le plus vieux représente les gens âgés, hein, les trois âges en fait, les trois rois mages sont les trois âges, mais c'est aussi trois peuples différents, hein, trois nations différentes. Et c'est, voilà, c'est pour ça que le premier est très âgé. En fait, très âgé, il doit avoir une soixantaine d'années, n'exagérons rien pour l'époque. Hein, le deuxième doit avoir dans les 50 ans. Et alors, le troisième est un noir. Et cela apparaît au XVIIe siècle, hein, à peu près, 16e, 17e, avec l'exotisme naissant, hein, des grands marchands qui partaient en Asie et en Afrique. Et donc on ramène des petits noirs, hein, qui servent de pages, qui servent, voilà. Et donc on dit, ben, puisque les rois mages représentent trois nations, ben pourquoi pas l'Afrique, hein, pourquoi pas le continent africain. Et donc il est noir et on dit que c'est Balthazar,
voilà,
hein, le noir, voilà. Et alors de l'autre côté nous avons Saint-Joseph un peu pensif, qui est courbé. Il est habillé de jaune et de blanc, il est barbu, parce qu'on le dit beaucoup plus âgé que la Vierge, alors qu'il devait avoir maximum 30 ans. Hein, mais pour l'époque, c'était âgé. Et donc, il est pensif. Évidemment, il s'interroge un petit peu sur sa condition. À lui, il est très humble, donc il n'en parle pas. Mais il se demande vraiment ce qui lui arrive. Hein. Et il a accepté quand même d'être le père terrien et d'éduquer l'enfant Jésus. Tout à son honneur.
Effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est un magnifique tableau. Dans la continuité,
de ces chapelles, voilà. Donc sur le pilier central, nous avons là aussi une très belle statue de Saint Joseph tenant l'enfant Jésus dans les bras. Le visage de Saint Joseph est remarquable, il est très beau. Là, il n'est pas vieux, il est dans l'âge mûr. Et c'est un peu rare. Et le petit Jésus a l'air tout gentil, tout mignon. On dirait presque une fille. Il est tout mignon. Alors par contre, je pense que dans sa main droite, il devait tenir le lys qui a disparu. Parce que le lys, symbole de Saint Joseph. Et la statue est un petit peu abîmée. Elle mériterait réparation, restauration.
Si je peux me permettre, Marie-Madeleine, par rapport à nos auditeurs, de nous dire la symbolique du lys.
Du lys, c'est comme pour la Vierge, c'est la pureté de Saint Joseph, hein, l'humilité de Saint Joseph, voilà. Hein, qui a reçu du Seigneur, de Dieu, la lourde charge d'être le papa terrestre du Fils de Dieu. Ce n'est pas rien. Et il a accepté. Lui aussi a dit oui. Pas nommément, mais il a dit oui dans son cœur. Et c'est important.
Absolument, merci. Ça permet aussi de savoir pourquoi oui. Ce lys dans les mains et dans le bras de Saint-Joseph. Donc nous continuons donc dans cette chapelle, voilà. Ces arcades, on va dire.
Donc il y a un grand Christ. Il y a un grand Christ qui est apposé sur le mur. Ce Christ est 19e. Et il provient d'une autre église, je ne sais pas laquelle, mais il a été mis là au Sacré-Cœur, donné par un paroissien. Voilà. D'accord. Et alors ensuite, en suivant, nous avons un beau tableau également, lui sans doute fin 17e.
Lumineux ce tableau. En
oui,
tout cas.
Enfin un peu sombre quand même. Sur sa partie gauche, il est lumineux, on voit bien Saint Jérôme, puisqu'il s'agit de Saint Jérôme. Mais dans la partie droite, alors, c'est un paysage avec une très belle perspective. Et au premier plan, nous voyons le lion de Saint Jérôme. Hein, Saint Jérôme étant un théologien du IVe siècle, qui a traduit la Bible grecque en Bible latine. Hein, voilà, la Septante, il l'a traduite en Vulgate, voilà, pour les amateurs. Et alors nous le voyons ici à gauche, habillé de rouge, les épaules dénudées, et tenant un crucifix dans la main, gauche, sur ses genoux, et la main droite caresse sa barbe. Et il est pensif, il demande au Christ de l'inspirer pour ses travaux de traduction de la Septante en Vulgate, voilà. Hein, voilà. Et je trouve ce tableau très beau, parce que ce travail de perspective derrière, de paysage de montagne et de lac, est très beau et très bien fait. Mais hélas, on n'en connaît pas l'auteur.
Alors, nous sortons de ces arcades et nous sommes face à un portail d'entrée avec deux vitraux de chaque côté de ce grand portail d'entrée et de sortie.
Oui.
Donc, peut-être nous prendrons celui de
Alors, celui de gauche. Alors, gauche. On peut s'attendre à retrouver Saint Paul et Saint Pierre, puisqu'à droite, il s'agit de Saint Pierre avec ses clés. Cette fois-ci, il y en a deux. Et donc la porte du paradis et de l'enfer, la porte du paradis en or et de l'enfer en argent. Voilà, il est jeune, là aussi, enfin il est relativement jeune, Saint-Pierre, ce qui fait plaisir. Hein, il est barbu, il n'est pas un vieillard chenu qu'on nous montre souvent, et il bénit de la main droite. Et de l'autre côté, donc à gauche, nous voyons un autre vitrail. On pourrait s'attendre à ce que ce soit Saint Paul, eh bien non, si on s'approche, on voit que ce personnage tient un lys et nous retrouvons Saint Joseph. Et ce n'est pas une erreur, si vous voulez, c'est que ce vitrail date de la construction, de la reconstruction de l'église qui s'est terminée en 1854 et qu'à cette époque-là, il y avait une vénération particulière et un renouveau de la vénération de Saint Joseph.
On reconnaît bien sur ces deux vitraux les couleurs particulières du 19e siècle.
Oui, en fait, il y a un peu toutes les couleurs. Mais c'est vrai qu'il y a le bleu, le rouge et le blanc. Hein, mais ça s'adapte un petit peu à tous les saints que nous rencontrons sur ces vitraux.
Alors, nous revenons vers le chœur. Et lorsque nous sommes face au chœur, là voilà, nous sommes devant le chœur de l'église du Sacré-Cœur, à droite, il y a une chapelle avec une vierge très spéciale.
Oui. Et oui, c'est voilà. La vierge de Fatima.
Voilà, tout
bien
à fait.
Bien chère à tous les paroissiens et en particulier aux paroissiens la de la communauté voilà. portugaise.
Toute la communauté portugaise qui est très fervente et très pratiquante et qui aime beaucoup cette chapelle justement.
Oui, oui. Alors cette vierge est très belle puisqu'elle est habillée de blanc. Tel que l'ont vu les trois petits, pâtres, hein, bergers de Fatima.
Qui sont représentés d'ailleurs là.
Qui sont représentés au pied de la Sainte Vierge. Et donc il y avait Jacinthe, Francisco et Lucia. Hein, voilà. Et donc Jacinthe et Francisco sont morts très vite après les apparitions. Donc ils sont morts vers les années 20. Les apparitions ont eu lieu en 17. Et ils sont morts très, très jeunes, tandis que Lucia a vécu, je crois qu'elle est morte en 2005, elle a vécu très longtemps, et c'est elle qui a révélé les trois secrets de Fatima.
Tout à fait, le pape Jean-Paul II.
Voilà, c'est Jean-Paul II, voilà.
Mais, alors, Fatima, que nous voyons là avec ses trois enfants, tout de suite, un tout petit peu à gauche et au-dessus. Alors, serait-ce Saint-Nomphèse ?
Alors, il ne s'agit pas de Saint-Nomphèse. Je l'ai cru au début, quand j'ai regardé un petit peu cette statue. Je me suis dit, tiens, il y a Saint-Nomphèse. Bon, ici aussi, puisqu'elle est sur un tableau
de la cathédrale. Il est représenté avec cette pelle.
Alors, il est représenté, c'est en bois doré. Donc, il est représenté avec une pelle, la main, dans la main gauche. Et il bénit de la main droite. Et il a une mitre sur la tête. Il s'agit de Saint Maurille. Il s'agit de Saint Maurille, qui était un évêque, mais surtout patron des jardiniers. Patron des jardiniers, pourquoi le retrouve-t-on ici? Si vous vous souvenez du début et de l'historique de l'église, du Sacré-Cœur, l'église a été construite, la première église a été construite dans un lieu qui était qui était utilisé par des maraîchers. Donc les paroissiens de tout temps, depuis le XIIIe siècle, ont tenu à ce que ce souvenir soit gardé par l'intermédiaire de cette statue de Saint Maurille, qui est le patron des jardiniers. Voilà pourquoi.
Merci pour cette précision, qu'effectivement, comme tout un chacun, et comme vous-même, Marie-Madeleine, j'ai bien cru que c'était Saint-Nomphèse.
Eh oui, voilà, qui creusait des lacs pour les paysans, pour donner à boire à leurs troupeaux.
Et donc, dans cette chapelle, nous apercevons des vitraux.
Oui.
Et là, il y a une particularité peut-être.
Alors, il y a trois vitraux contemporains qui peuvent surprendre dans cette église ancienne.
Tout à fait.
Mais finalement, c'est la marque du XXe siècle, puisque c'est l'artiste Christian Verdun, qui est
très connu très de nos
connu
studios, d'ailleurs,
et des Lotois,
très connu de Radio
Présence. Et au-delà, qui donc nous offre trois vitraux contemporains dans les trois travées du Sacré-Cœur. Voilà, qui sont des vitraux abstraits. À moins qu'un jour, Christian Verdun vienne à Radio Présence expliquer ses tableaux, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Ça serait
une bonne idée. Avec grand plaisir que nous le recevrons. Donc, tous ces tableaux font partie de cette chapelle. Nous ressortons pour aller voir une autre curiosité. On se demande bien, enfin, on a l'impression que cette curiosité étant un tableau, on a l'impression que ce tableau ne fait pas partie du Sacré-Cœur, mais tout en étant dans l'église du Sacré-Cœur.
Voilà, il est dans l'église du Sacré-Cœur. Il a été mis là certainement, je ne sais pas quand, mais il y est. Il est dans la première travée quand on rentre. Alors, ce tableau représente un fait bien particulier qui s'est déroulé en 1853. C'est d'ailleurs l'inscription qui est marquée au pied de ce tableau, de ce grand tableau qui doit faire 2 mètres de haut, sinon plus, presque 3 mètres, sur 2 mètres de large. Et alors, il est marqué donc couronnement de Notre-Dame de Rocamadour par Monseigneur Bardoux, évêque de Cahors, le 8 septembre 1853, voulant contenter à accroître le culte de la Mère de Dieu et à entretenir la piété des pèlerins qui se rendent en ce saint lieu. Voilà, nous avons résolu d'orner cette image d'une couronne d'or. C'est l'explication de ce tableau où on voit donc Monseigneur Bardoux, qui était l'évêque de l'époque, qui couronne la Vierge de Rocamadour. Et en cette occasion, on a habillé la Vierge de dentelles, d'un manteau en velours bleu roi, ainsi que l'enfant Jésus, qui lui-même a aussi un voile identique à sa maman, et le même manteau et les mêmes dentelles. C'est très amusant, mais voilà, c'est bien une Vierge noire, puisqu'elle est foncée, le visage est foncé, le petit Jésus aussi. Et Mgr Bardoux est en train de lui poser la couronne d'or sur la tête.
C'est ce que j'allais dire. Mais il n'est pas le seul évêque.
Alors, il n'est pas le seul évêque. Il en envoie 3 autres, 2 à gauche, 1 à droite, qui tiennent crosse en main et mitre en tête, gantés de blanc. Et ensuite, donc, nous voyons des croix, des cierges, beaucoup de prêtres, d'acolytes, d'enfants de chœur qui se trouvent autour. Dans leurs habits de parade, je dirais, ou d'apparat, voilà, parce que c'est une grande célébration. Et c'était le pape de l'époque, Pie IX, qui avait demandé spécialement à Monseigneur Bardoux de procéder à cette cérémonie pour couronner la Vierge de Rocamadour. Il le demandait à tous les diocèses qui possédaient des Vierges noires. Voilà.
D'accord. Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, nous terminons notre visite de l'église du Sacré-Cœur de la paroisse de Cahors par ce tableau assez énigmatique de par sa position dans cette église du Sacré-Cœur. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie-Madeleine.
Au revoir. Merci de votre attention.
Et je vous dis donc à la semaine prochaine où nous serons dans l'église du Montat. Nous serons reçus par Monsieur le maire Jean-Paul Mougeot, ainsi que des paroissiens de la paroisse de Cahors. Au revoir, chers amis auditeurs.
C'était Église du Lot, votre balade hebdomadaire des églises et chapelles de notre département. Présenté par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.